Bonjour, vous êtes sur Radio B, toujours et encore la radio des bonnes ondes, 90.fm, dans l'émission « L'art, c'est pas du luxe ». Et ce jour, je reçois le mystérieux Mr. Goodfull, qui, en quelques mots, va se présenter à nous. Je rappellerai qu'il est écrivain et slameur, et qu'il navigue entre Mayotte et Lyon.
Bonjour Christian, et merci bien de m'avoir invité ici parmi vous. Alors je vais me présenter très brièvement. Donc j'ai eu différents métiers, et le dernier a été professeur de mathématiques, et puis à un moment donc je me suis arrêté. En fait j'ai eu peur, pourquoi ? J'ai vu un de mes collègues partir en retraite, et dans quel état il était. En fait je me suis projeté, et je me suis dit, non, je ne veux pas finir ma carrière comme lui. Il y a autre chose à vivre dans la vie. Et je suis un peu revenu à mes premières amours. Alors au début, ça a été effectivement très difficile. J'écris depuis très jeune, comme beaucoup de personnes, beaucoup d'adolescents. Et puis, j'ai commencé par écrire, en fait, non pas du slam, mais un one-man show.
Oui.
Un one-man show intitulé « La verte vie ». Et que j'ai pu jouer donc sur Lyon, intégralement. Et c'était... je l'ai joué en partie au Complexe du Rire, et aussi à l'Espace Gerson.
Oui.
À l'époque, l'Espace Gerson était tenu par un ancien professeur aussi, mais de philosophie. Mm-hmm. Le courant avait bien passé, et puis j'ai pu jouer là-bas. Ensuite, la vie est faite de rencontres. Et j'ai pu rencontrer Éric Massé, qui aimait bien ma plume. Il m'a dit, voilà, je vais faire une bouffonnerie de Saint-Slam au Théâtre des Célestins.
Oui.
Donc, j'aimerais que tu puisses m'écrire un livre, enfin, pas un livre, mais un texte sur le bouffon. Un texte de slam. Alors, je ne connaissais absolument pas le slam. Donc, je suis allé effectivement sur Lyon, dans différents lieux, rencontrer des slameurs, les écouter. Et j'ai écrit donc mon premier texte intitulé « Le bouffon ». Et je vais donc vous slammer ce dernier maintenant.
Tout à fait, nous vous écoutons.
Bouffon, bouffon de la société, ne vois-tu rien venir, cécité ? Bouffant les OGM, les motards, les Monsanto. Je l'affirme, les planteurs nous plantent, les bouffons de l'agroalimentaire de gros. Nous sommes les bouffons des bouffons, et le bouffon est là, pour faire passer le message du mépassage dont tu te nourris chaque jour. Lorsque le froid pince, mon seigneur, et que la rumeur enfle. Il faut que la mauvaise humeur s'écoule dans la rue. Oyez, si rage peut vous faire ombrage, plus de vaccins, plus de pasteurs, agissez à la racine de la fontaine du mécontentement. C'est fini, love, un pisse à l'arrêt. Plus de discussion, c'est la révolution qui démarre aux quatre quarts de tour. Breton, Corse, Mandarin, mondialisation, uniformisation, pasteurisation, sous prétexte de normalisation. Alors, tu rentres dans cette case là, que je te coach, que je te scotch. Je sais. Le cœur rouge agite le merdier de ta conscience, alors que tu te délectes de langoustes, d'écrevisses, d'homards, de ces queues rouges ou bleues, bouffeurs de cadavres. Est-il de bon ton de manger de l'éboueur ? Dans l'éboueur, tout est-il bon ? Qui est à la fête ? La fin d'année ou la fin d'année ? Slam suffit.
La fin d'année, F-I-N, des damnés de la terre.
Tout à fait.
Là, nous sommes dans un texte politique engagée, on l'aura saisi, entre Monsanto et notre hyperconsommation. Vous qui êtes sensible donc à la décroissance ou à la surconsommation. C'est ce premier texte qui vous est venu à l'esprit.
Alors, il avait donc fait un texte qui passait donc à la salle La Célestine. Il avait joué ce dernier et je crois que c'était écrit par Laurent Petit. Et en fait, c'était sur le thème du bouffon et moi, je l'ai détourné. En fait, le bouffon, c'est le fou du roi.
Oui.
Ça nous vient du temps des sagas. Le fou du roi pouvait un peu se permettre de dire tout et n'importe quoi, mais il était quand même loin d'être bête, le fou du roi. C'était loin d'être un fou.
Oui, bien sûr.
Mais il pouvait quand même se permettre de dire beaucoup de choses au roi que personne, effectivement, ne l'aurait fait s'il n'était pas là.
Oui, le bouffon, c'était une fonction, à savoir que le roi pouvait s'entendre dire par lui-même ce que d'autres n'osaient à peine murmurer et énoncer. Et c'était aussi sa conscience, le haut du roi. Et là, le bouffon, je suis en train de me rendre compte que bouffon, c'est aussi la bouffe ou la malbouffe dont vous avez parlé. Je vous en remercie. En écoutant le slam, me reviennent le sens, la polysémie des mots et le bouffon, qu'est-ce qu'on est en train de manger ou comment l'homme se fait-il manger par cette société consumériste? Donc, ce premier texte, et là, vous ne l'avez pas signalé, mais il appartient à un premier recueil qui s'intitule
« Débat sur l'indécence du slam ». Alors là aussi, le titre joue sur la polysémie. C'est non pas l'indécence, mais c'est l'indécence du slam. Mais en même temps, il y a aussi des textes indécents.
Aussi. Donc, vous voulez poursuivre par un autre texte?
Alors, un autre texte aussi. Alors, ces textes me sont tout de même inspirés par mes lectures.
Qui sont ?
Alors, pour ce qui est de la société donc, de consommation, donc, c'était un prix Nobel d'économie qui était Stigler, enfin qui est Stigler,
oui.
Qui avait écrit « Hyper-économie et psychopouvoir ». Parce qu'en fait, le consommateur est manipulé. Mais c'est lui qui a le pouvoir, en fait. Et quel est l'énorme pouvoir qu'il a? Non pas le pouvoir d'achat, mais le pouvoir de non-achat. Et s'il s'en servait, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui pourraient éventuellement changer.
J'ai entendu un commentaire d'un économiste dernièrement. Et là, il s'avère que les choses sont en train de changer. Et que les hypermarchés ou les supermarchés, etc., sont déjà moins, non pas désertés, mais les consommations sont vers la baisse, enfin d'après les derniers sondages. Mais je pense qu'il va y avoir une riposte pour obliger encore et encore les consommateurs à se précipiter avec leur caddie dans ces lieux. Stigler, oui, on peut trouver sur YouTube des émissions, des entretiens qu'il a pu donner, me semble-t-il. Donc, un autre texte?
Donc, ce texte est basé effectivement sur la société de consommation. Alors, c'est une critique assez acerbe, mais tout en jeu de mots aussi. Le titre est « Consommateur ». Consommateur. Dans « consommateur », il y a « con » et « mateur ». Il y a donc le mateur de con qui explore tes habitudes d'achat, que tu payes avec une carte bancaire que tu payes déjà. Tu payes pour avoir le droit de payer, et l'on se paye ta tête, car si ta tête n'est pas mise à prix, il y a un prix sur ta tête. Les riches, les bien-pensants, les habitués du lardu, se font protéger par les lardus. Mais si tu n'as pas de lard, tu te feras tabasser par les lardus. Tu resteras une tête de lard, un larbin, si tu ne veux pas te battre pour un morceau de lard. Je voudrais dégraisser ceux qui s'engraissent et deviennent le nombril du monde, alors qu'ils ne regardent que le nombril de leur monde. Un jour viendra où je pratiquerai la lombriculture, alors qu'ils en seront toujours au stade de la nombriculture. Tu n'as pas le pouvoir d'achat, mais tu as le pouvoir d'achat. Tu as le pouvoir de ta raison capable de guider ton achat. Alors les médias te manipulent sans scrupule. Guider tes choix? Non. T'imposer l'émotion de la consommation à la noix. T'achètes, j'encaisse. T'en veux plus? Je produis plus. T'achètes, j'encaisse. T'en veux plus? Je ne produis plus. Que veux-tu? Où es-tu? Je produis tes désirs, mais selon les méthodes que je désire. Ton chariot, je le scanne. Trop de scan, c'est l'économie du gaspillage. Plus de caissières, plus de dialogue, plus d'humains. Des robots, alors forcément, il y a des dérapages. Terres exploitées, terres chimiques, terres saignées. Alors consommateur sac à pognon, l'économie, on te l'a enseigné? J'ai fait l'école de l'école maternelle. J'ai fait les M. Tu as fait l'école de management. Tu as fait les M. Tu marches sur les têtes pour l'accession au pouvoir. Pas bête les M. Je marche sur les têtes de ceux qui marchent sur la tête. Pas bête les M. Dans les toilettes. Je pose mon cul sur les lunettes. Dans les toilettes, tu poses les lunettes sur ton cul. Alors forcément, doux Jésus, tu ne peux que nous prévoir un avenir de merde.
Donc, Bethléem, l'étoile est là, l'étoile des rois mages. Hein, nous pourrions aussi, sans jeu de mots, dire. Oui, donc, vous pointez, enfin, et là je vois les petits koalas et les petits kangourous actuellement en image dans mon cerveau de l'Australie. C'est un mâle, mais il y en aura d'autres aussi. C'est une version, une vision peut-être apocalyptique, mais on a à prendre soin de l'humain, du prochain, de l'ami, mais aussi de la Terre, parce que la Terre est notre mère nourricière aussi. C'est ces textes que vous avez produits, pondus, créés. Vous pouvez les soumettre à des associations, par exemple, qui connaissent votre travail, ou vous êtes dans l'ombre, transparent?
Je dirais que je suis dans l'ombre. Effectivement, j'avais eu à un moment essayé de prendre des contacts, mais j'ai pas dû rencontrer les bonnes personnes. Donc, pour le moment, non, les textes sont dans l'ombre.
Donc, ceux qui peuvent les avoir sur Internet, vous avez un site?
Alors, non, bien malheureusement, je ne manie absolument pas la technologie. Je ne connais rien au D'accord. niveau informatique et au niveau de la diffusion.
Donc ces textes-là, on peut les écouter. Donc bien évidemment, cette émission sera podcastée. Mais si quelqu'un qui a écouté vos textes engagés, dégagés et bien envoyés, il pourra vous contacter comment?
Je peux aussi vous laisser mon mail.
D'accord, ça vous pouvez le communiquer en fin d'émission par exemple.
Je le communiquerai effectivement, mon mail, en fin d'émission, oui.
Une petite respiration, si je puis dire, loin de l'Australie et loin de l'Amazonie. Jacques Higelin.
La glace lisse, je m'efface devant toi, je m'éclipse. Tu traces en surface des ellipses, comme une hélice d'hélico, je brasse l'air. Tandis que tu me dépasses, dans un reflet du palais des glaces, je passe inaperçu devant ton miroir à trois faces. Ice cream passionnel. fruit de la passion, à la grâce du ciel. Je patine sur le lac des cygnes, avant-coureur de ta froideur maligne. Tu traces avec adresse et grâce dans l'espace des esquisses des SOS. Jaloux de ton audace, je m'élance et je me ramasse. Ice cream, scélérat, nice dream, je tombe entre tes bras. Ice cream, patatras, bad dream, comme dans un jockey, je me tords la cheville et je pars en vrille dans l'entonnoir du clash. Tu glisses sur la glace, lisse, encore sous le choc, je me masse le coq, six. Tu glisses sur mes grimaces, un kiss. Je plisse les paupières de guerre, lasse.
Oui, donc j'ai pensé à ce texte de Jacques Higelin qui, bien évidemment, là, joue ou laisse les mots jouer en lui, et retrouver cette voix si émouvante du grand Higelin, j'espère que vous l'avez aussi entendu et éprouvé. Maintenant, vous pourriez nous dire en quelques mots ce qu'il en est d'une définition ou d'une représentation du slam ?
Alors, je dirais qu'il y a autant de slam que de slameur. Mais déjà, que signifie le mot ?
Oui.
Alors, le mot vient de l'anglo-saxon. Par exemple, « to slam a door ». Cela signifie « claquer une porte ». Donc, on veut des textes forts, avec des mots qui marquent, des mots qui claquent. Il y a une rythmique, une musicalité. On peut dire que c'est une poésie contemporaine et urbaine aussi. Alors, au début, dans les années 80, c'était Mark Smith, aux USA, à Chicago exactement, qui s'est bien rendu compte qu'il était pratiquement impossible pour une classe ouvrière d'aller voir certains spectacles, tellement effectivement l'accès à la culture est onéreux. Alors il s'est dit, pourquoi ne pas créer des endroits où les personnes viendront et seront spectateurs et acteurs ? Donc c'était le principe de scène ouverte. Les spectateurs pouvaient donc monter sur scène, jouer d'un instrument, chanter, déclamer, lire. Et petit à petit, des règles se sont instaurées. Et maintenant, donc, c'est vraiment axé sur le verbe. Il y a aussi donc des compétitions de slam. Alors, les textes doivent durer un certain temps. Et puis, les gens donc sont notés dans une ambiance bon enfant. Et en plus, je dirais que le slam, ce qu'il apporte par rapport aux autres culture, c'est en fait se dire que tout est possible sur scène. Il n'y a pas d'interdit. Ça, c'est extrêmement important. Il n'y a pas d'interdit. On dit ce que l'on ressent. Alors, il peut y avoir des textes trash ou pas. Tout est autorisé. Et ça, c'est fantastique. C'est une bouffée de liberté énorme dans notre société.
Oui. Donc là, vous avez pu participer, vous, à des scènes libres?
Oui, bien entendu, puisqu'il fallait bien que je m'entraîne pour cette soirée au Théâtre des Célestins.
Oui.
Donc je suis monté sur scène, alors j'avais un peu les genoux qui jouaient des castagnettes les premières fois.
J'imagine.
Et puis petit à petit, eh bien, on se détend, et puis on se laisse effectivement embarquer dans l'aventure.
C'est-à-dire que c'est une parole qui est donnée ou qui est prise par qui veut l'apprendre et qui est écoutée, entendue. Et après, j'imagine qu'il y a un échange avec le public ou entre slameurs, où chacun rentre chez soi dans sa solitude.
Il n'y a pas forcément d'échange avec le public, mais ensuite il y a des échanges effectivement entre slameurs. Et puis après, chacun, effectivement, rentre chez soi. Il faut savoir que les gens aussi, quand ils viennent, des fois, ils viennent juste d'écrire un texte. Peut-être dans l'heure, avant de monter sur scène. Donc, ils viennent avec leur bout de papier, quoi. Donc, c'est vraiment très spontané pour certaines personnes.
Là, en vous écoutant, ça me rappelle un lieu à Londres. Je ne sais plus le lieu d'ailleurs, peu importe, dans un grand parc londonien, où il y avait des endroits où chacun pouvait aussi s'exprimer tout à fait librement. Mais pas en slam, mais en discours, en poésie. Et là, cette liberté que vous mentionnez, on peut la retrouver. Mais je vais dans une autre contrée, à savoir en Louisiane. Je conseille d'ailleurs aux auditrices et aux auditeurs de regarder cette série qui s'appelle Tréme, qui a été après l'ouragan Katrina, à savoir une série politique, amoureuse, économique, écologique. Et on voit que en Nouvelle-Orléans, les bluesmen conservent cet esprit de spontanéité, d'authenticité, et actuellement se sont aussi joints des rappeurs ou des slameurs. Nous sommes d'accord. Un slam pour poursuivre.
Alors j'ai un texte effectivement qui m'a été inspiré par la crise des subprimes.
Oui.
Donc qui a ébranlé le monde entier et qui est venu en fait par l'effondrement du prix des maisons. Alors je ne vais pas tout détailler en fait, mais la titrisation effectivement donc des taux, des prêts. Que l'on faisait.
Aux États-Unis, hein.
Aux États-Unis, bien entendu. Donc, tout peut s'effondrer, en fait, très rapidement. Le Dubaï. C'était un petit bail qui me rapportait pas mal de bail. Alors, j'ai décidé de remettre du bail dans un bail à Dubaï. Le placement était assez chaud, mais je gardais mon sang-froid bien au chaud. Puis, je pouvais devenir un bailleur de fonds. Me reposer profondément en regardant le plafond et bâiller aux corneilles pour l'éternité en attendant l'oseille dans cette douce vallée de Dubaï. Mais les loups de Dubaï sont attirés par le bail comme les porcs fuient le porte-porbail. Du coffre que j'entrebâille, je sors tout l'argent pour cet agent qui m'a dit que placer l'argent des gens est tout un art. C'est l'argent. Comme un con, je lui fais confiance, et c'est sans méfiance que je lui donne l'argent de ma vie avec envie. Mais être con est tout un art. C'est le connard que je suis et qui aurait dû rester dans le placard qui lui donne à gérer tout le bazar. Cet agent artistique d'une agence touristique me place le tout dans un placement en béton, en achetant de la pierre à tâtons. C'est dans le ton. Tu pourras partir et te reposer pendant que l'argent se mettra à travailler. Ainsi, tu auras pire et vacances. Les locaux furent en vacances. Les prix de l'immobilier s'effondrèrent. La Burke Dubaï connut une nouvelle ère. Même l'île aux palmiers, considérée longtemps comme île au trésor, commença en ces temps à prendre l'eau. Et l'argent du foncier, devenu liquide dans les poches des financiers, s'évanouit dans un océan de montage financier dans ce nouvel âge des créanciers. En fait, je m'étais adressé à un homme de paille que j'avais rencontré à Hendaye et qui, sur mon dos, fit ripaille. Va poursuivre un ripailleur. C'est comme un orpailleur. Ils sont toujours d'ailleurs. Ce sont des faiseurs de rêves à deux sous qui te prennent tes sous. Parfois avec des deux sous de table pas bien beaux, afin que tu ne tires pas deux sous de tes beaux. Alors, pour ce qui est de leur garantie à deux balles, ne te porte pas garant de leur vie avec deux balles dans un canon. Soit tu te noies éternellement dans le canon, et tu n'auras droit qu'à un bouquet final à six roses. Soit, comme une arbre à deux balles, tu oses, prends le canon et contre le pose. Mais dans ce canon, car il faudra le faire ailleurs, puis presser sur la détente, ne va pas te détendre de tes peurs. Renonce, car tu ne peux te faire justice. Et puis ta cupidité était aussi ta complice. Tu te dis que tu tournes en rond, sans rond, immobile, lié par un contrat pour des ronds. C'était un contrat qui ne tournait pas rond. À fond perdu, tu ne peux le nier. Lors des ronds étant révolus, il faut se résigner. Et c'est à la lueur de tes pleurs que tu contemples, Dubaï de laine, l'épaisseur. Ils t'ont scié le fond. Et nage dans le bonheur, toujours sans heurts et dans la bonne humeur, et sont prêts à te préparer des investissements dans des fonds de fonds à tempérament. Il y a même un fonds qui s'appelle Préfonds. C'est un fonds de retraite pour les personnes hors fonction de la fonction publique. Tu crois que tu vas toucher le fonds ? Que nenni ! Ce n'était qu'un préfonds. Le fonds s'est éloigné, c'est comme la retraite. En fait, ton fonds rapporte si peu que dans le fond, tu pourrais même commencer à utiliser l'argent de ta retraite tout en bossant. Il est monnaie courante que certains battent l'argent pendant que d'autres se débattent en retraite. Et on a le culot d'appeler l'âge d'or, l'âge de la retraite des plus en plus vieux qui font même des envieux.
Oui, là, nous sommes dans une actualité brûlante. On ne va pas quitter le désert de Dubaï, mais nous allons encore une fois nous plonger dans cette actualité. Ce texte est ancien et là, vous avez été un peu, dans la prédiction.
Oui, effectivement. Mais c'est vrai que lorsque l'on écrit sur la quantité de texte qui est produit, on peut se dire qu'il y a quand même une analyse prédictive, mais c'est faux. Donc forcément, il y en a qui seront dans le vrai plus tard.
Oui, mais vous-même, là, donc c'était la crise de 2006 ou 2007 hein, aux États-Unis. Hein, c'est ça, avec l'effondrement des taux. Et la retraite dont vous parlez, vous pensiez à votre ami qui était parti, lui, en retraite de façon assez catastrophique, enfin déprimé ou usé, dans une grande lassitude, hein, ce monsieur auquel vous ne vouliez pas ressembler.
Tout à fait, oui. Je pense dans une grande lassitude et usé par le métier.
Et ce texte, j'ose parler non pas de vous à votre place, mais ce texte, vous renvoie à un grand écart entre ce que vous vivez, puisque vous vous soutenez, accompagnez dans les bidonvilles de Mayotte des personnes dans une très très grande précarité.
Oui, effectivement. Donc, j'officie au sein d'une association en tant que bénévole. Je porte un peu un projet, bien entendu, avec d'autres personnes. Hein, je suis bien entouré. Ce projet, en fait, c'était de construire une école dans un bidonville. Eh bien, banco, c'est fait. Ça a été créé. Et maintenant, les personnes vont continuer, bien entendu, parce qu'on accompagne les gens qui ont un projet. Et maintenant, on va continuer aussi donc, à les accompagner. Le hard est fait, le dur est fait. Les murs, entre guillemets, parce qu'en fait, les murs, c'est de la tôle. Hein. C'est assez précaire comme habitat. Enfin, c'est quand même un lieu où on peut se réfugier, où nous sommes abrités de la pluie. et c'est aussi un lieu de vie pour une communauté.
Et là, cette école accueillera des enfants de quel âge à quel âge ?
Alors, ce sont eux qui vont le décider, mais je dirais à partir de l'âge de 8 ans. Alors, c'est extrêmement important d'avoir une éducation. Ça évite aux enfants d'être dans la rue.
Oui.
Ça évite aussi de sombrer dans certaines, déviances. La rue, c'est extrêmement dur. Donc, avoir une éducation, c'est extrêmement important. Il faut savoir aussi que l'éducation nationale est absente dans certains endroits. Ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer à l'éducation nationale. Il faut avoir une adresse. Et pour certaines personnes, c'est très, très dur d'avoir une adresse. L'adressage est très important.
Oui, c'est-à-dire pour qu'un enfant puisse être inscrit dans une école, l'adresse des parents est nécessaire, voire ce sont des personnes qui sont nomades ou qui bougent sans cesse. Ah oui, je n'avais pas du tout conscience de ce problème-là. Donc nous allons vous écouter.
Alors c'est un texte sur le travail. Nous sommes dans une société où il y a de plus en plus de chômage. Et en même temps, on demande aux personnes les plus âgées de rester effectivement sur le marché du travail, ce qui est un peu aberrant. Il est aussi extrêmement difficile de mettre en corrélation certains postes avec les personnes qui auraient les compétences pour être à ce poste. Il y a beaucoup de métiers qui disparaissent, beaucoup qui vont se créer, et on ne connaît même pas les métiers du futur. Donc c'est extrêmement difficile de se projeter. Avant, nous étions dans une société au niveau du travail relativement lisse, dans le sens où nous avions un métier pour la vie. Maintenant, c'est fini. Il faut se remettre en cause, et nos enfants, et peut-être aussi les futurs enfants, donc devront apprendre plusieurs métiers au cours de leur vie. Alors ce texte est intitulé « La tâche », avec quelques petits jeux de mots sur « la tâche », circonflexe ou sans accent circonflexe. Chez les animaux humains, il existe des tâcherons. Ils ne peuvent se libérer de leur travail et tournent en rond. La laisse du patron est juste assez longue et sert d'attache, afin qu'ils éprouvent la liberté de bosser à leur tâche. Celui qui ne bosse pas est considéré comme fainéant. Mais pour certains, le travail est un agent stressant et aliénant. On en arrive à prendre pour stagiaire des potaches, dont la tâche consiste à déterminer les futures tâches. Certains font grève par peur de perdre leur boulot. Cela est compréhensible, des chômeurs, il en existe tout un lot. Certains travailleurs ont pour métier la suppression des tâches. Monsieur Yang, de mon pressing, est un tueur tâches. Il est très zen et vit de la mort des tâches sur les vêtements. Pourtant, c'est un homme de cœur et il agit proprement. Lui-même prend des risques pour sa santé. Il peut mourir à la tâche en voulant faire disparaître, à l'aide de solvants des autres, la tâche. Un chômeur sans domicile fixe est un chercheur d'identité autre que celle donnée au travailleur. Et peut-être port celui qui dénonce par sa tâche celles et ceux qui n'ont pas de port d'attache. Oui, je dénote, dans ce monde en forme de bloc-notes virtuels, où l'on recueille de l'humain d'autres choses que l'essentiel, où l'on s'en fiche quand on met en fiche ceux qui roulent patache, pendant que certains roulent carrosse, dans des habits, avec sous-tache. Ma plastique est-elle à couler dans un moule social? Puis-je créer ma place dans un cadre non commercial? Pourquoi toujours se servir d'une machiavélique hache pour découper des identités en se frisant les moustaches? Un chômeur est un entrepreneur. Tuer des chômeurs et qui voient supprimer des travailleurs qui ont peur de devenir entrepreneurs et tiennent à leur gâche. Alors il faut faire des recensements sans que cela ne fâche. proposer des travaux précaires pour ne pas foutre le système en l'air. Se garder de proposer un abri de salariés bien en chair. Car tu pourrais faire des projets et relancer l'économie, la vache. Arrêter le casse-croûte, manger du pain blanc, l'ami sans relâche. Le plein emploi est-il l'objectif du pôle emploi qui ploie sous les demandeurs des créateurs d'emplois? Essaye de créer le lien entre offre et demande. Main cache. Il y a un marché caché. Il faut que tu le saches. Il y a des réseaux souterrains à creuser. Jusqu'en Chine, il faut parfois chiner pour travailler. Ne rechigne pas. Sinon, ce sera la peur de la radiation et la cravache. Sans un pied dans la tombe, il faut faire son trou avec panache. Ne te mets pas trop la pression dans une telle mission, car tu pourrais faire une dépression. Il y en a des légions. Si tu recules devant cette tâche, on te prendra pour un lâche. Et tu seras au menu des discussions des toqués pour ce goulash.
Là, vous mettez l'accent sur le travail ou la tâche telle que nous devons la mener ou telle qu'elle peut être imposée. Et comment l'humain occidental est prisonnier d'un destin pas toujours très drôle ou certain. Dites-nous votre avis sur ce travail qui est imposé ou recherché ou que l'on doit mener à bien.
Alors, j'aimerais bien que le travail ne devienne plus du travail, mais soit du plaisir. Le travail, il est imposé. Les gens ne travaillent pas par plaisir. Les gens travaillent tout simplement pour avoir de l'argent et de quoi vivre. Rares sont les personnes qui trouvent du plaisir dans leur travail. Tant mieux, et j'en suis extrêmement heureux pour eux.
Donc, nous allons passer maintenant au second recueil qui s'intitule, je l'ai sous les yeux, Il slame l'essence de l'âme. Donc le titre lui-même est déjà tout un programme sans jeu de mots.
Oui, effectivement. Donc je me suis dit que les mots pouvaient effectivement avoir une âme. Donc pourquoi pas s'amuser avec ces dernières. Et je dirais que j'ai une écriture, je continue de l'avoir, un peu de type asiatique, puisque je cuisine les vers et leurs pieds à la sauce phonème. Et dans cet ouvrage, donc j'ai pris beaucoup de liberté. Et la rythmique du slam me permet de gueuler, parfois en vous enchantant tout en étant décalé. D'émettre certains points d'interrogation qui peut-être auront quelques incidences et mettront en lumière les déviances des réflexions dans une poésie psychosocio-économique brossée à coups de la vie et abordable aux réfractaires.
Maintenant, et sans quitter le sujet, passez à une autre respiration musicale.
Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas pour invalide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Oui, donc ce métier-là de poinçonneur, des lilas, est bien évidemment tombé en désuétude. Et maintenant, vous pourrez prendre le métro avec votre application, un smartphone, etc. Là, vous allez aborder un autre sujet qui est très important dans l'air du temps, à savoir le code génétique, entre autres, et ce slam qui s'intitule
« Putain de code ».
Nous vous écoutons.
Alors, je vais présenter un petit peu. Donc, j'ai fait quelques lectures, notamment donc, de M. Albert Jacquard, qui était un généticien de renom et qui nous a quittés. Il faut savoir que nous avons donc un code génétique. Nous n'y pouvons rien, mais nous sommes, entre guillemets, tous des tarés, dans le sens où nous sommes porteurs de tares génétiques, exprimées ou non exprimées, qui pourront éventuellement aussi s'exprimer au cours de leur vie, de notre vie. Mais il ne faut pas oublier aussi que nous sommes des mutants. C'est-à-dire qu'il y a parfois donc un espoir, c'est que les gènes se modifient au cours de notre vie. Donc il y a toute une nouvelle maintenant science qui est en train d'étudier ces modifications génétiques. Alors allons-y pour putain de code. Dans le labo, sur le dos, j'ai le boss. Il me pousse au crack pour craquer le code. J'ai du matériel. Cela ne devrait pas être mal commode. Mais j'ai peur. Pourtant, je l'aime mon métier sur les boss. Je ne sais si je vais ouvrir une boîte de Pandore. La société m'a recruté pour un travail en or. Sur la structure de l'intimité du vivant. Alors, il faut que j'ouvre de mon cerveau les pores. Que je travaille en petite équipe soudée pour dessouder les points de résistance à la connaissance de la vie. Trouver les points de levier de la compréhension avec envie. Alors, j'ai dit oui. Je ne pouvais une telle chance bouder. La macromolécule a créé le remuant vivant. La complexité m'excite et je m'arrange de ces atomes à trouver le lien, quitte à me faire un hématome. Pour mes circonvolutions, c'est éprouvant. La reproduction est assurée par de l'acide avec des lisses. Sa structure se voit sans lunettes en trois dimensions. En poussant un peu plus loin mes investigations, je me trouve face à face avec une double hélice. Une molécule de 150 milliards d'atomes. C'est celle de l'acide désoxyribonucléique. Un acide qui possède quatre bases, pas catholique. Je me remets donc de lire, de chimie, des tonnes de tomes. Je phosphate du cerveau et prends un sucre pour l'alimenter. Je découvre sucre, phosphate et 3 milliards de bases. Pour mes 23 paires de chromosomes, c'est l'extase. Je comprends que la clé est dans le noyau. je dois continuer. En fait, c'est comme un fruit. Il suffit de cracher le noyau pour obtenir un autre individu unique sans aucun vice. Je continue mon mécano sans vice, mais en poussant le vice. Et là, je découvre un squelette pas vraiment beau. Entre les bases azotées, il existe une liaison. Je m'aperçois alors que l'intermédiaire est l'hydrogène. Toutefois, il est juste témoin, assure sans aucune gêne la solidité, la stabilité de la structure de sa maison. La vie ne tient pas à un fil, mais à deux brins. Et elle nous donne du fil à retordre si nous désirons retrouver le fil de l'ordre de l'information génétique fourrée dans ce pétrin. Je croyais l'ADN uniquement dans le noyau. Que nenni ! Il existe des cellules qui n'en possèdent aucun. Des prokaryotes où il se planque, le sacré coquin, dans un chromosome super enroulé en forme de boyau. C'est plein de fausses pistes. J'ai même trouvé une bactérie qui possède un chromosome linéaire, la pourrie. Cette fois, c'était relativement simple et sans travers. Mais chez les cellules à noyau, un jour, je connus un revers. Je planquais un eucaryote et vis une mitochondrie se balader avec cet acide. Logique pour une batterie. Chez les algues, il n'y a pas photo. C'est le même topo. J'ai fait une saisie dans les tripes de cellules. Coup de peau. J'arrive à choper l'ADN, mais je ne trouve pas de gène. Ils en étaient ailleurs. Pourtant, protéine m'avait filé l'info. Comme quoi c'était lui qui l'a codé et n'était point sot. Quand la cellule aura faim, elle deviendra hyène. Je suis coyote sur les bords et un peu retors. Effectivement, elle eut besoin de protéines afin de recopier une partie de ses gènes. Le passeur était le croupier, qui servait d'ARN messager et se prenait pour un lore. Je découvris alors la transcription de l'homme. L'ARN avait la faux codée, il ne servait à rien de l'arrêter. J'attendis. Pris le traducteur sur le fait et sans la pâter, je l'interrogeai calmement. Il m'avoua être ribosome. Je lui dis que je désirais l'épistolaire correspondance entre les séquences des nucléotides et celles des acides aminés où je lui filais une danse. Il cracha. Phosphate, sucre et base forment un nucléotide. Le germe des protéine est constituée d'acides aminés. Je voulais cette correspondance entre leurs séquences. Je me suis fâché. Il a craché le morceau. Je l'ai laminé. Je me demande quelles en seront les conséquences.
Mr. Goodfull, ce texte sur le code génétique, vous avez travaillé, bien évidemment, de façon pédagogique, tel l'ex ou l'ancien professeur que vous étiez, et des amis à vous, chimistes ou chercheurs, l'ont apprécié.
Oui, donc j'ai des amis qui ont effectivement donc, apprécié ce texte. Je fais effectivement de temps en temps le rat des bibliothèques, le rat des médiathèques, et je bouquine pas mal, je prends des notes, je fais des fiches de lecture. Et puis je construis petit à petit les textes, je dirais par une méthode assez heuristique, dans le sens où je jette des mots sur une feuille blanche et petit à petit des associations d'idées se créent. Et comme ceci, le texte se travaille petit à petit, on revient dessus et on le peaufine.
Oui, mais là, les prokaryotes, l'ARN, ainsi de suite, les nucléotides, tous ces concepts-là, vous les avez utilisés à bon escient.
Tout à fait, oui, bien sûr.
Vous avez donc dû travailler.
Ça a été très travaillé, oui.
Nous sommes d'accord.
Ils ne sont pas là par hasard.
Oui. Et donc, vous pouvez tout à l'heure ou demain vous projeter dans un autre texte, puisque vous aurez été sensible à quoi ? À une indignation ? À une sensation ? Comment vous travaillez ?
Alors, je dirais c'est beaucoup par relation, par contact, en discutant avec les gens qui des fois m'interpellent. Tiens, ce serait bien si tu pouvais travailler sur tel ou tel sujet. Et puis je m'allonge, je me suis dit pourquoi pas. Des fois, je mets de côté effectivement quelques écrits. Puis au bout de 6 mois, je reprends et je me lance et ça démarre. Alors on peut écrire 5 heures d'affilée, une journée, et puis le faire d'un trait. Parfois, c'est de manière morcelée que le texte se construit. Alors, je tiens à cœur quand même ce texte, parce que maintenant, on est quand même au stade de la manipulation génétique.
Bien sûr.
Dans le sens aussi d'un certain eugénisme, ce qui me fait peur. Je me dis, que deviendra l'humain? Que restera-t-il de nous plus tard? Je ne sais pas.
Oui, donc les mutants et cette transformation continuent.
Oui.
Et pour marquer maintenant une petite pause musicale, avant d'écouter votre dernier texte, lui aussi très très fort, nous allons être dans la nostalgie ou dans le souvenir.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu me dis cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleurir et déambuleront dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Tout le temps perdu, tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. À voir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire. Et comme la rengaine je vais, je viens, je vire et tourne et me traîne. Ton image me hante et je te parle tout bas. J'ai le mal d'amour et je le mal de toi. Oh, dis, quand reviendras-tu? Dis, non, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe, que tout le temps perdu ne se rattrape plus, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau m'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour, si tu ne comprends pas qu'il faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs, je comprendrai ma route, le monde m'émerveille, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu, que tout le temps perdu ne se
Après cette fabuleuse chanson de la bien nommée Barbara, interprétée par Depardieu, nous allons revenir à Mr. Goodfool qui va nous lire, avant de nous quitter, deux slams.
Alors, pour ne pas que la transition soit effectivement trop brutale, je vais faire un extrait de slam, puisque nous avons quand même un certain temps qui nous est imparti, sur l'écologie, intitulé « Ma case d'écolo ». Donc c'est juste un extrait. Ma case d'écolo. Je rêve d'une maison écolo, construite avec un matériau auto-isolant des autos, mais laissant passer les vélos. Un revêtement de sol en vrai lino qui me permettrait de marcher sur une toile tout en la regardant, et si brillante que mon image se miroiterait dedans. Des murs sans murmure, abritant une putain d'acoustique destinée à la muse de la musique. Des murs bien jointés contre le froid, mais laissant passer la chaleur humaine. Des joints impossibles à fumer sans laisser des traces dans son haleine. Ma nature ayant horreur du vide, je comblerai les combles avec un aquarium ouvert d'où s'évanouiront les ombres. Avec une portion de décoration, je construirai de mes délires une décoction. Une tapisserie en bouchon de liège, directement importée des caves de liège, où le vin se bonifie de son vivant dans des caveaux, avant de mourir de plaisir sur les langues, sans y laisser sa peau.
Donc maintenant, vous avez désiré nous lire un texte plus politique, plus ardent, plus engagé. Nous vous écoutons donc.
Oui, effectivement, c'est un texte très politique, puisque il y a eu effectivement donc une révolution française. Mais on s'aperçoit quand même que nous avons pratiquement toujours les mêmes personnes au pouvoir, dans le sens où ce sont des personnes qui sont formatées, qui généralement donc ont fait l'école nationale d'administration. Et il n'y a pas véritablement donc de personnes communes, publiques, sur les bancs des députés. Donc pourquoi effectivement, à un moment, dans la démocratie, puisqu'une démocratie, en fait, c'est une mouvance, c'est en perpétuelle construction, avoir des personnes tirées au sort et qui viendraient dans les assemblées. Pourquoi pas ? L'éthique du politique. J'ai fait l'école nationale d'administration pour administrer les administrés. Les citoyens dépendants de la nation, des bureaucrates et des illustrés. Je m'illustre depuis des lustres, de père en fils, pépère, en pondant des lois, pas forcément de bon aloi. Mais petit à petit, je m'incruste auprès des rustres. Je me fais tailler des costards et entaille jusqu'au sang ceux de mes adversaires. Toutefois, je prends soin d'acheter mes arrières pour ne pas me retrouver dans un doré placard. Souvent, je pratique le jeu de la veste réversible. Ma position est alors une prise de parti, sans parti pris et sans aucun bien réparti. Mes répartis ont pour cible les êtres sensibles. En rebroussant chemin, je retombe sur mes pas. C'est mon côté chat. Aussi, je souris lors des votes, des primaires prises au premier degré par les dévotes et adore leurs ébats pleins de coups bas lors des repas. Je construis des discours semant la discorde au milieu des miens prêts à m'envoyer dans le décor. Alors, au second round, je les travaille juste au corps, en épousant leurs détours sans les prendre à la corde. Je lis, devin que je suis, les nécessaires alliances à mon ascension. Aussi, je me marie sans alliance. Car avec mes balours, je tisse des liens le jour. Mais la nuit, je demande quelques retours. Lors de réunions secrètes, je joue la balance, sème l'intrigue, file quelques uppercutes sans complaisance à ceux qui me font de l'ombre. Et, dans la pénombre, m'annonce un avenir sombre.
J'ai appris qu'il vaut mieux connaître ses ennemis, les garder à ses côtés comme s'ils étaient amis. Ne rien laisser transpirer de ses émotions lorsque l'on prend des sanctions en votant d'émotions. Je crée un règlement pour m'aider à régler mes comptes, avec tout plein d'exceptions et de grâces à bon compte. Certains courtisans adorent cirer les pompes de leur cire et font des pompes pour garder la forme devant mes cires. Je me trouve toujours un bouc émissaire, un fusible à souffler lors des anniversaires et des coups durs à traverser en sous-marin lors des séances nocturnes en apnée avec des bourrins. Je me réserve, ainsi qu'à quelques proches, de petits privilèges plutôt lourds de reproches. Mais après tout, même ceux du camp opposé en profitent et votent blanc avec un air bien posé. Nous nous crachons dessus à coups de langue de bois, mais nous mangeons tous dans la même gamelle en bois. Nous nous prenons des gamelles sans perdre la face et rebondissons quand nous sommes sur le tapis d'en face. L'intérêt privé nous permet de n'être privé de rien. Nous mettons les ardoises en commun. Sur le dos du peuple, c'est humain. Et sans denier, ce dernier réélit notre bande de vauriens. Je sais que tu lis quelques-uns de mes délits, que sous la peau du pouvoir, ta langue se délie, prête à me faire la peau avant que tu ne retournes au lit. Ivre de haine, après avoir bu la coupe jusqu'à la lie. N'oublie pas que les peuples doivent disposer d'eux-mêmes, mais que les dirigeants disposent des peuples. N'oublie pas qu'un politicien est un homme s'occupant de ses cités, tout en portant un regard avide vers un avenir béant. Demande-lui donc de faire le premier pas.
Donc, Mr. Goodfull, nous vous avons écouté avec plaisir. J'espère que les auditrices et auditeurs de Bourg-en-Bresse et de la région auront aussi apprécié. Votre adresse mail, si des personnes veulent vous joindre.
Alors, Mr. Goodfull, tout attaché, en EN, attaché avec Mr. Goodfull. Donc ça vous fait Mr. Goodfull en @live.fr pour le jeu de mots. Mr. Goodfull en live.
Merci beaucoup et continuez bien votre live et à une fois prochaine.
Merci beaucoup de m'avoir invité, Christian.